OK, on va commencer notre 45e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder l'histoire des Puritains. Alors, c'est dans la première partie. Il va y avoir probablement 3 ou 4, peut-être 5. Ce soir, c'est comme une introduction. Mais suite à l'introduction, il devrait y avoir un petit peu un petit développement sur l'histoire des Puritains dans les différentes périodes avec les différents acteurs qui sont les plus importants. Alors, ça devrait prendre peut-être encore 3 ou 4 autres leçons. Alors, au cours des prochaines leçons, on va étudier brièvement l'histoire des Puritains. Beaucoup des informations contenues dans nos leçons ont été tirées de la brochure du pasteur réformé baptiste Harold Hulse, intitulée « The Story of the Puritans », publiée par Chapel Library, et aussi d'autres sources. On va examiner les questions suivantes. Leur pertinence pour l'Église d'aujourd'hui, leur histoire et leur contribution théologique. Ça va être les trois principales axes autour duquel les leçons vont tourner. Alors la première, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la pertinence des Puritains pour l'Église moderne. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qui étaient les Puritains? À quelle époque ont-ils vécu? Qu'ont-ils accompli? Qu'enseignaient-ils? Et quel est leur héritage? Tous les théologiens qui ont étudié leur vie et leurs œuvres s'entendent pour affirmer que ces chrétiens étaient des hommes d'une profonde vision et d'une compréhension théologique, et que nous, encore aujourd'hui, on peut très largement profiter de leur expérience, de leur savoir et aussi de leur marche chrétienne. Considérant les grands problèmes et tendances philosophiques modernes, les Puritains gardent très certainement leur pertinence. L'époque puritaine est la meilleure historiquement pour combler les lacunes et les faiblesses des églises protestantes modernes. Voyons de plus près ces lacunes et faiblesses et comment les forces des Puritains peuvent les rééquilibrer. Alors, ce que Harold Hulse dit dans sa brochure, il dit que là où les Puritains sont les plus faibles aujourd'hui, la période des Puritains, c'est justement l'inverse. Nos faiblesses peuvent être facilement comblées par leur force. C'est intéressant de comprendre cela. Alors aujourd'hui, on vit à l'époque de ce qu'on appelle le postmodernisme. Dans les années 1960 et 1970, le monde occidental s'est graduellement déplacé philosophiquement du modernisme au postmodernisme. Depuis 2 siècles, le modernisme insista sur la raison, la politique et sur la science comme moyen de régler les problèmes des hommes et comme des remèdes universels. L'humanité s'est rapidement rendue compte que ces supposées solutions étaient des échecs et avaient conduit à un profond effondrement moral. Le postmodernisme est caractérisé par le relativisme et la pseudo-tolérance. Le postmodernisme n'admet pas la notion de péché et est farouchement antinomien, donc il veut dire contre la loi. Selon eux, le péché n'existe pas, ce sont simplement des erreurs. Il y a une foi presque aveugle dans l'éducation, voyant en elle une panacée, donc un remède universel. Les notions de bien et de mal sont établies par les hommes eux-mêmes et leurs sentiments. Les idées d'absolu, comme la doctrine de Dieu, comme la parole de Dieu, que les hommes auront des comptes à rendre, comme le juge suprême, par le juge suprême, sa loi, le ciel et l'enfer sont rejetés et extrêmement impopulaires. L'approche des Puritains était vigoureuse, vibrante, holistique, vraie, scripturaire et honorant le Seigneur. Nous avons donc beaucoup à apprendre des Puritains. Alors, on pourrait dire que l'antidote des Puritains au postmodernisme, c'est une vision du monde scripturaire. Un autre problème qu'on vit de nos jours et qu'eux, il y aurait une solution à nous donner, c'est la néo-orthodoxie. Néo veut dire nouvelle. Orthodoxie, c'est autrement dit le fait d'être correct avec nos doctrines. Alors, la néo-orthodoxie est une croyance selon laquelle un examen attentif et scientifique des manuscrits bibliques révèle des erreurs. Un théologien très influent, que l'on peut considérer comme néo-orthodoxe, est Karl Barth, qui a vécu entre 1886 et 1968. Il a, plus que tout autre, grandement affecté le cours de la théologie protestante en Europe et au-delà. Ses vues sur les Saintes Écritures étaient de nature libérale. Par exemple, les néo-orthodoxes questionnent l'historicité d'Adam et Ève, ainsi que tout le surnaturel, autrement dit les miracles, qui sont présents dans toute la Bible. La néo-orthodoxie n'est jamais sûre des fondations. C'est comme si elle marchait sur des sables mouvants. Le puritanisme partage avec la néo-orthodoxie l'utilisation de la raison et de la pensée pour analyser et réfléchir. Cependant, la force des puritains est de ne jamais questionner la validité et l'autorité de la Bible. Avec eux, nous marchons toujours sur l'infaillible, parfaite et solide parole de Dieu, autrement dit, sur le roc. Alors, l'antidote des puritains à la néo-orthodoxie, c'est vraiment l'autorité, l'inhérence, la perfection et la solidité absolue des Saintes Écritures. Alors, on retrouve ça dans tous leurs écrits. Le fondamentalisme, comme troisième problème moderne, est un mouvement religieux d'origine chrétienne américaine. Alors, le mouvement s'est développé dans les années 1920 et 1930. Il avait pour but de défendre les doctrines chrétiennes contre les attaques du modernisme et du postmodernisme sur l'autorité des Écritures, la déité de Christ, la Trinité et d'autres doctrines considérées comme essentielles. Nous ne devons pas avoir de compromis avec les doctrines essentielles comme la deuxième venue de Christ pour le jugement, la résurrection universelle et physique des morts, la conception virginale de Jésus et l'existence du ciel et de l'enfer. Cependant, ils ajoutèrent malheureusement d'autres doctrines qu'eux considéraient comme primordiales, comme le prémillénarisme et le dispensationalisme. Ils ont eu aussi enclin à ajouter d'autres questions et d'en faire presque des lois sur l'usage du tabac et de l'alcool, la baignade, le jeu de cartes, la danse, le théâtre. La Bible enseigne, par exemple, la tolérance et non l'abstinence totale. Le vin est utilisé lors du repas du Seigneur, alors que les fondamentalistes en prohibèrent l'usage pour justifier leur pratique de l'abstinence totale. Alors, on pourrait dire que l'antidote des puritains au fondamentalisme, ils étaient rigoureux sur les doctrines essentielles, mais tolérants sur les doctrines non essentielles. Eux appelaient ça « not major and minors ». Autrement dit, on ne chicane pas sur des points mineurs, on se concentre sur les choses essentielles. Alors, d'autre part, ils utilisaient la liberté de conscience et ne faisaient pas des règlements d'hommes, mais ils prônaient plutôt le contrôle de soi et la discipline. Alors, autre chose qui est vraiment de nos jours, on le voit tout autour de nous, ce qu'on a appelé le néo-évangélisme. Alors, le fondamentalisme était perçu par beaucoup de chrétiens comme étant trop séparatiste, intolérant et agressif. Il était vu comme étant la religion du point fermé. Il était alors inévitable qu'un autre mouvement soit créé, qui soit basé sur l'amitié et l'expression plus raisonnable de la foi. Ils voulurent que leur mouvement s'exprime davantage par la raison, l'érudition et la tolérance. Aussi, laissèrent-ils s'infiltrer de nombreux libéraux dans leur rang et ils firent bientôt de graves compromis sur l'inspiration, l'inhérence et l'autorité des Saintes Écritures et bien d'autres sujets théologiques. Alors, l'antidote des puritains au néo-évangélisme, un équilibre dans la doctrine de la séparation ecclésiastique et une foi inébranlable dans la perfection, la suffisance, l'autorité, l'inhérence et l'inspiration de la Bible. Le cinquième point, c'est vraiment ce qu'on peut appeler les excès du pentecôtisme. Alors, on sait, le pentecôtisme est un mouvement très diversifié, Nous pouvons noter qu'il place une emphase particulière sur trois importants sujets. La réalité de l'expérience spirituelle, la démonstration de la puissance spirituelle et la joie dans l'adoration publique. Premièrement, les puritains mirent une grande emphase également sur l'expérience spirituelle de la grâce gratuite de Dieu dans la conversion. Les paramètres de l'expérience spirituelle en ce qui a regard à la joie de la justification, l'amour du Père dans l'adoption, la patience dans la tribulation et l'appréciation de Christ furent pleinement explorés par eux. La vision puritaine était que nous étions complets en Christ. L'expérience spirituelle consiste donc en l'appréciation par le croyant de l'union avec les trois personnes de la Trinité. Le Nouveau Testament ne suggère pas d'autre expérience après la conversion qui n'ait été préalablement reçue à la conversion. Deuxièmement, plusieurs sections du mouvement pentecôtiste mettent une emphase sur la continuité des signes, miracles et glossolalies. Les puritains considéraient que les apôtres et prophètes du Nouveau Testament étaient extraordinaires et temporaires. Ils avaient été donnés pour l'œuvre de la fondation et nous n'avons pas à répéter leur travail. Il n'est pas nécessaire de défendre la parole de Dieu avec des signes et des miracles. L'enseignement des puritains est libérateur parce que nous n'avons pas à marcher sur l'eau, à tenir des serpents dans nos mains, à opérer des guérisons, à ressusciter des morts ou à opérer des miracles comme la multiplication des pains. Les désillusions dans son domaine ont emmené de grandes souffrances et ont blessé et même tué beaucoup de personnes. Troisièmement, la nécessité d'une adoration joyeuse est vraie. Un culte froid, sans vie, est en contradiction avec la joie du salut. Le principe régulateur est important. Notre adoration publique doit être régulée par les spécificités du Nouveau Testament. La lecture publique et la prédication de la parole de Dieu, la prière d'intercession, le chant et la louange. Il n'y a pas de spécification quant à l'ordre de ces choses et à la manière dont ils doivent être arrangés. Ceci suggère la liberté. Nous n'avons pas besoin d'ajouter d'éléments qui sont plus du ressort du monde, du spectacle. Nous pouvons bien combiner la dignité, la révérence et la joie sans recourir aux artifices du monde. Alors, on pourrait dire l'antidote des puritains aux excès du pentecôtisme, le principe régulateur et l'exposition solide des Saintes Écritures. Alors, le principe régulateur, c'est vraiment qu'il ne devrait pas y avoir dans un culte rien qui n'est pas justifié par les Saintes Écritures. Alors, si on commence à ajouter des choses, on le voit aux États-Unis, on pourrait donner une multitude d'exemples, les cultes sont rendus des shows et à quelque part, ça dérape très rapidement. Alors ça, c'est une idée qui était défendue très farouchement par les puritains, qu'on se devrait d'avoir des cultes dont tous les aspects sont justifiés par une pratique dans les Saintes Écritures. Autre chose, l'évangélisation superficielle, qui peut nous aider à combattre. L'évangélisation moderne a donné naissance à des pratiques peu bibliques. Le décisionnisme est ce que les anglophones appellent l'altar call, alors la préparation psychologique des auditeurs par de la musique, des émotions, des vibrants appels à la conversion et à la repentance, comme si ces choses peuvent exercer à salut par les pécheurs, peuvent être exercées à salut par les pécheurs et la manifestation publique de leurs décisions. Les puritains connaissaient très bien la doctrine de la souveraineté de Dieu dans le salut, que la foi et la repentance sont un don de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui régénère l'âme et non la décision de l'homme. L'équilibre est nécessaire pour être fidèle aux Saintes Écritures. Alors, on pourrait dire que l'antidote des puritains à l'évangélisation superficielle est un équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. L'arminianisme met trop l'accent sur la responsabilité humaine tandis que l'hyper-calvinisme met trop l'accent sur la souveraineté divine. Alors, il était très fort là-dessus, sur le côté équilibré. Oui, c'est la souveraineté de Dieu qui sauve les hommes, mais ça n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Si tu commences à avoir un déséquilibre de ces deux aspects-là, tu vas glisser soit dans l'hypercalvinisme ou tu vas glisser soit dans l'arminianisme. Alors, quand ils nous disent qu'ils peuvent nous amener des leçons sur l'évangélisation superficielle, oui. Et autre chose sur laquelle ils peuvent nous aider, c'est ce qu'on appelle la théonomie ou le reconstructionnisme. On le voit dans nos propres milieux, il y a des gens qui sont glissés dans ce que nous on considère comme une erreur. Le reconstructionnisme est un mouvement américain qui met l'emphase sur la loi morale et sur une vision post-millénariste qui voit la chrétienté comme dominant les gouvernements civils autour du monde et qui deviendront chrétiens. Le reconstructionnisme veut faire appliquer les enseignements bibliques à toutes les facettes de la vie privée et publique par l'exposition des Saintes Écritures, de manière à équiper les politiciens à appliquer les lois bibliques à la vie publique. Alors vraiment, ils cherchent à convaincre les gens d'accéder au gouvernement pour essayer d'influencer les politiciens pour faire appliquer tous les principes de la Bible à tout le monde. Alors les puritains auraient certainement appuyé l'idée de chercher de convaincre le gouvernement d'appliquer les commandements de Dieu à leur législation. Beaucoup de puritains étaient post-millénaristes. Cependant, leur vision optimiste était davantage centrée sur le pouvoir de l'Évangile pour changer le monde que sur l'intervention et l'engagement dans le domaine politique. Alors, l'antidote des puritains au reconstructionnisme est de mettre l'emphase sur la conversion spirituelle plutôt que sur la politique. Et autre chose qui peut nous apporter des corrections, l'Évangile social. Alors, l'Évangile social est un mouvement intellectuel chrétien qui s'est engagé à lutter contre la pauvreté, l'inégalité, le crime, le travail des enfants, les tensions raciales, les bidonvilles, le manque d'hygiène, les écoles pauvres et le danger de la guerre. En un mot, l'accent est mis sur le bien-être du corps des hommes et non sur les âmes. Le danger est toujours la question du déséquilibre. Alors, ça, on pourrait voir plusieurs mouvements américains qu'au départ, ils étaient pour l'évangélisation et tranquillement, ils ont glissé vers juste aider les personnes dans leur corps. L'Évangile n'a rien contre ça. Le Christ lui-même a pratiqué ça. Mais cependant, tout est dans la question de l'équilibre. À partir du moment où on fait juste aider les corps, et qu'on oublie que ces gens-là s'en vont en enfer, même s'ils seraient dans le confort, à quelque part, on dérape aussi. Et on voit que c'est toutes des réalités autour de nous, ce jour. Et une des dernières choses que ça peut nous aider à corriger, c'est l'hypercalvinisme. Alors, l'essence de l'hypercalvinisme est de nier la grâce commune à tous les hommes. Les hypercalvinismes nient que l'on puisse offrir l'Évangile à tous les hommes. Le grand prédicateur et pasteur Charles Spurgeon était un puritain dans toutes les fibres de son être. Dans sa prédication, nous avons de merveilleux exemples d'une présentation de l'Évangile dans l'ensemble des cinq points du calvinisme. Par exemple, Spurgeon méprisait la présentation de l'Évangile qui rend le salut possible à tous, mais qui dans les faits ne sauve personne. Spurgeon prêchait la rédemption particulière. Alors, l'antidote des puritains, l'hypercalvinisme, est le maintien d'un équilibre et d'une harmonie entre la souveraineté divine dans le salut et la responsabilité humaine. Alors, j'ai utilisé une autre revue qui s'appelle Reformation and Revival. C'est un périodique dans le volume 5, numéro 2 du printemps 96. Le thème, c'est comme un... presque un livre, ça contenait au-dessus d'une couple de 100 pages. Le thème était le puritanisme. Alors, le pasteur et docteur Don Kistler est considéré comme un spécialiste de la littérature puritaine. Il a été le président de la maison d'édition Soli Deo Gloria Ministries. Alors, pendant plus de 20 ans, le pasteur a réédité et réimprimé plus de 250 titres d'auteurs puritains et en a distribué plus de 700 000 exemplaires à travers le monde. Voici les 10 raisons qu'il a données pour convaincre les chrétiens modernes de lire les puritains. Premièrement, ils élèveront votre conception de Dieu. Ils le feront à un degré tel que vous n'auriez pas cru possible. Ils vous feront connaître le grand Dieu de la Bible, qui est plus que digne de nos louanges et de notre adoration. Le puritain Jeremiah Burroughs, dans son classique « Gospel Worship », a fait la déclaration suivante. « La raison pour laquelle nous adorons Dieu d'une manière indigne et superficielle est que nous ne le percevons pas dans toute l'étendue de sa gloire infinie. » En lisant les puritains, vous deviendrez en quelque sorte un solitaire dans le sens spirituel. Vous deviendrez excité de ce que vous lirez et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de multitude de gens qui partagent votre vision exaltée du Seigneur. Si vous expérimentez de façon même incomplète la vision d'Ésaïe 6, vous réaliserez que la réalité de Dieu dépasse de façon infinie tout ce que nous pouvons comprendre sur lui. Une des raisons pour lesquelles nous pensons si pauvrement de Dieu est parce que nous lisons peu. La lecture nous aide à penser. Nous vivons dans une culture d'images photographiques plutôt que dans une culture de culture typographique. Tout est images, vidéos et films. Tout le travail est fait pour nous. Tout a été pré-mâché et nous n'avons pas à lutter avec des concepts. Quelqu'un d'autre interprète la matière présentée au moyen des images. Il y a 400 ans, les mots étaient figés sur une page et forçaient les lecteurs à réfléchir aux idées présentées. Souvent, j'ai rencontré ça sur Internet. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui regardent. Les jeunes d'aujourd'hui sont rendus paresseux intellectuellement parce que tout est fait en images et ils ont de la misère à lire, à se concentrer pour lire une page, lire un livre. Alors, c'est quelque chose qui se répercute chez les chrétiens également. Deuxième raison pour laquelle on devrait lire, selon lui, c'est que les puritains étaient littéralement en amour avec Christ et ils écrivirent beaucoup sur la beauté de Christ. Un des plus grands puritains fut Thomas Goodwin, un congrégationaliste. Il écrivit sur le ciel et dit « Si j'étais pour aller au ciel et découvrir que Christ n'y serait pas présent, je le quitterais immédiatement parce que le ciel sans Christ serait pour moi l'enfer. » James Durham écrivit dans son application un sermon sur Cantique, chapitre 5, verset 16, qui déclare que toute sa personne, en parlant de Christ, est pleine de charme, que nous cherchons malheureusement ailleurs notre satisfaction. Nous voulons un peu de Christ et beaucoup d'autres choses. Le chrétien ne devrait désirer que Christ et seulement Christ. Sa beauté est une fontaine inépuisable de satisfaction que ni la langue des anges, ni celle des hommes ne peut décrire. Son excellence dépasse infiniment toute notre capacité imaginative. Nous entrons dans le monde de la découverte incessante de ses perfections insondables. Alors ici, je vous ai copié une citation de Samuel Rutherford, est en anglais. Je ne la lirai pas parce que je vous la laisse juste pour ceux qui lisent l'anglais. Mais on voit que Rutherford avait une conception du Seigneur qui était extrêmement élevée. Et sûrement que cette conception-là venait de sa relation avec les Écritures et la prière et bien d'autres choses. Troisième manière dont les puritains peuvent nous aider aujourd'hui, c'est qu'ils vont nous aider à comprendre la toute-suffisance de Christ. Cette idée de la toute-suffisance de Christ est sous attaque dans nos églises modernes. Nous pouvons avoir besoin de Christ pour le salut de nos âmes, mais nous croyons qu'il n'est pas pleinement suffisant pour rencontrer absolument tous nos besoins. Ne voyons-nous pas une illustration de tout cela dans le fait que nous pensons trouver des solutions à nos problèmes dans la psychologie moderne? Le puritain Ralph Robinson, un contemporain de Thomas Watson, a écrit un livre intitulé Christ All in All, traduction libre, Christ tout en tout, de plus de 600 pages sur un verset de Colossiens 3.11. Imaginez-vous écrire un livre de 600 pages sur Colossiens 3.11 qui dit que Christ est tout en tout. Alors, il faut le faire. Alors, quel blasphème que de dire que Christ est suffisant pour satisfaire Dieu et qu'il ne le serait pas assez pour nous satisfaire dans tous nos besoins. Alors, eux peuvent nous aider à rétablir un petit peu l'ordre là-dedans. Quatrième moyen, par lesquels ils peuvent nous aider, c'est qu'ils nous aident à voir la suffisance des Écritures pour la vie et la piété. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2e épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » C'est un passage très intéressant à étudier en profondeur, 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 3 à, je pense, c'est 14 ou 15, là, qui nous démontre que, dans le fond, Dieu nous a donné tout ce qui peut contribuer à notre vie et à notre piété, que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle. Alors, le monde crie pour davantage d'estime de soi, alors que le chrétien devrait valoriser davantage l'estime de Christ. Le puritain Jeremiah Burroughs a écrit l'ouvrage « The Saint's Treasury ». Le premier sermon du livre est intitulé « The Incomparable Excellency and Holiness of God », donc l'incomparable excellence et sainteté de Dieu. Alors, il expose brillamment le verset suivant. Exode 15, verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Ce sermon a une longueur de 35 pages et parle avec grande éloquence de la splendeur de Dieu dans la première partie du verset. Dans la deuxième partie du verset, il développe l'idée que si Dieu est si splendide et que seul il peut satisfaire l'homme, alors il n'a pas besoin de s'estimer lui-même, mais plutôt d'estimer plus justement et plus profondément la glorieuse personne de Christ. Autre point sur lequel ils peuvent nous aider, les puritains peuvent nous enseigner sur la nature haineuse du péché. Les puritains ont beaucoup écrit sur la nature coupable et haineuse du péché. Aucune doctrine n'exige plus d'orthodoxie que celle-ci. Si les chrétiens font erreur ou comprennent mal la gravité extrême du moindre péché, il s'ensuit que l'erreur aura des conséquences sur toutes les autres doctrines. C'est en quelque sorte le fil qui peut découdre le vêtement dans son entier. Encore une fois, Jeremiah Burroughs a écrit le livre « The Evil of Evils » or « The Exceeding Sinfulness of Sin ». Le mal des mots, le mot des mots, les mots du mal. Et c'est très difficile à traduire le mot sinfulness. J'ai regardé dans plusieurs endroits sur Internet. Sinfulness, ça se traduit normalement par coupable et haineux. Mais c'est très difficile d'avoir un mot exact en français pour traduire le mot sinfulness of sin. Je dois vous dire que je lis le livre, j'ai commencé à regarder ça. Il y a 67 chapitres. Et j'avais l'intention de les donner suite à ce qu'on vient de voir sur les 10 commandements. Parce que là, il va un petit peu plus en profondeur pour nous montrer, oui, on a vu ce que c'était les 10 commandements, mais il veut nous montrer le côté « sinfulness of sin », le côté haineux, le côté coupable, de tout ça. Alors, à quelque part, peut-être je le ferai un jour, mais vu que c'est un travail qui demande beaucoup de... C'est du strict, parce qu'il faut traduire... mais c'est pas tout à fait, c'est plus que ça. Corruption, c'est pas... oui, il y a le mot corruption, mais sinfulness of sin, c'est plus... le mot corruption ne traduit pas sinfulness. Alors, OK. Alors, Jeremiah écrit ce fameux livre, et je l'ai, et éventuellement, je dis pas qu'on le fera pas, parce qu'il prend, autrement dit, il développe sur 67 chapitres comment le moindre péché est tellement grave qu'on n'a pas aucune idée comment il est grave. On a perdu ça de vue, je pense, de nos jours dans les églises. Alors, l'extrême gravité du péché, même le plus petit d'entre eux. Il dit, par exemple, que les gens feront tout pour éviter toute souffrance, alors qu'ils feront presque rien pour éviter le péché. Le péché est cependant pire que la souffrance parce qu'il cause de la souffrance. Il avance aussi l'idée que le péché est pire que l'enfer parce que le péché mène vers l'enfer. D'autres puritains ont publié sur le même sujet. Edward Reynolds avec The Sinfulness of Sin, Obadiah Sedgwick avec The Anatomy of Sins, of Secret Sins et beaucoup d'autres. Alors ça doit être très intéressant, moi je ne l'ai jamais lu. The Anatomy of Secret Sins, c'est nos péchés secrets. Et il doit aller en profondeur pour nous le faire comprendre la nature de ces choses-là. C'est pas des choses sur lesquelles on entend prêcher beaucoup de nos jours. Le grand pasteur et théologien Jonathan Edwards, qui a écrit le célèbre sermon « Sinners in the hands of an angry God », autrement dit « pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère », a beaucoup parlé de la gravité extrême de tout péché. Il a déclaré « Tout péché est d'une proportion infinie et il est plus ou moins haineux, dépendant de l'honneur de la personne offensée. Dieu est infiniment saint, ce qui rend le péché infiniment haineux. C'est pourquoi il n'y a pas d'une telle chose qu'un petit péché, parce que le péché est un acte de trahison cosmique commis contre un Dieu infiniment saint. » Autre chose sur laquelle ils peuvent nous aider dans la vie pratique et quotidienne. S'il y a une chose que j'aime des puritains, j'ai lu peut-être en tout, peut-être une dizaine de livres sur des puritains. Et s'il y a une chose que j'aime de eux, c'est leur côté pratique. Ils prennent une doctrine, ils l'expliquent avec les Écritures, et à la fin, ils finissent toujours, ils appellent ça « use ». « Use one »,« use two », »,« use three », »,« use four ». Des fois, avec juste un ou deux versets, ils vont aller chercher 10 ou 12 applications. Mais tellement intelligentes, moi, j'apprécie beaucoup. Les apprécie beaucoup là-dessus parce qu'ils ont le don de prendre des doctrines qui sont intellectuellement et conceptuellement parfois un petit peu difficiles à saisir. Ils expliquent très, très brillamment. Et ensuite, ils ont le don de faire sortir des choses de ça dans notre vie de tous les jours, dans notre vie pratico-pratique de tous les jours. J'aime beaucoup les puritains là-dessus. Ils sont reconnus et ils sont tous presque tous pareils là, côté, sur ce côté-là. Alors, le livre du puritain Richard Baxter, intitulé « Christian Directory », a été appelé le plus grand manuel de counseling biblique jamais produit. Avant le 20e siècle, tout le counseling se faisait du haut de la chaire ou durant les visites pastorales pour catéchiser les familles. Les pasteurs étaient vus comme les médecins de l'âme. Le mot « psychologie », d'ailleurs, signifie « l'étude de l'âme ». Maintenant, ce qui était la cure d'âme des âmes pécheresses est devenu la cure d'esprit malade. Ce qui était confié aux pasteurs a été donné aux psychologues, qui sont très souvent des incroyants. Le docteur G.I. Packer, un contemporain, a affirmé que le livre de Baxter est le plus grand livre chrétien jamais écrit parce qu'il applique les Saintes Écritures à absolument toutes les facettes de la vie. Je l'ai à la maison, je l'ai déjà consulter un petit peu sans le lire au complet, mais il touche absolument tous les facettes de la vie pratico-pratique. La relation entre hommes et femmes, la relation entre père et ses enfants, entre la mère et ses enfants. Il est très pratico-pratique. Quand G.I. Packer il dit que c'est le plus grand livre qui a été publié sur le counseling, vraiment, il touche tous les aspects de la vie. Et ça, aujourd'hui, ce serait nécessaire qu'on redécouvre ces choses-là, qu'on les réapplique dans nos sermons. Alors, toutes les facettes de la vie se devraient d'être régulées par la Bible, selon les puritains, et plus particulièrement notre usage du temps. Nathanael Renew a écrit un bouquin intitulé « Solitude Improved by Divine Meditation », donc la solitude est améliorée par la méditation divine. C'est l'œuvre classique sur la méditation spirituelle. Il a développé l'idée que s'il y avait un 11e commandement, ce serait celui-ci. Tu ne perdras pas ton temps. Les puritains ont très richement écrit sur absolument toutes les facettes de la vie chrétienne dans le quotidien. Alors, autre sujet sur lequel ils peuvent nous aider en s'assurant que notre évangélisation est biblique. L'évangélisation moderne est anthropocentrique, alors que celle des puritains était théocentrique. Les puritains insistaient sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la conversion. Ils disaient « Si tu ne peux aller à Dieu avec un cœur droit et sincère, alors va à Dieu pour lui demander de te le donner. » Autre chose sur lesquelles peuvent nous aider à établir nos priorités bibliquement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Un puritain disait « Le sourire de Dieu est ma plus grande récompense, alors que son froncement de sourcils des approbateurs est ma plus grande crainte. » Il est vrai que nous devenons semblables aux gens avec qui nous passons beaucoup de temps. C'est donc un bon investissement de notre temps de lire les puritains. Par exemple, le livre de Jeremiah Burroughs intitulé « Gospel Fear », traduction libre « La crainte de l'Évangile », dans une série de 7 sermons sur Ésaïe 66, verset 2, dans la version Darby. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel, mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Nous avons tout intérêt à savoir ce que signifie qui tremble à sa parole. » Alors, quand il dit qu'il va regarder à celui qui tremble à sa parole, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire trembler à la parole de Dieu? Autre chose qui peut nous aider à clarifier comment un homme est réconcilié avec Dieu. Un livre d'une grande qualité est celui du puritain Solomon Stoddart, intitulé « The Safety of Appearing on the Day of Judgment in the Righteousness of Christ ». Autrement dit, la safety, ce serait la sûreté d'apparaître dans le jour du jugement revêtu de la robe de justice de Christ, de la justice de Christ. Nous ne pouvons pas mettre trop d'emphase sur l'importance d'être orthodoxe, sur la doctrine de la justice imputée de Christ à l'époque où la confusion règne sur le sujet. Alors, la justice imputée versus la justice infusée. Bien sûr, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on pourrait développer beaucoup là-dessus. La doctrine de la justice imputée se perd de nos jours pour la remplacer par, autrement dit, c'est l'homme qui accomplit ses propres œuvres et non pas, on ne se fie pas entièrement sur ce que Christ a fait en accomplissant la loi à notre place et en subissant le châtiment à notre place. Alors, quand on parle de justice infusée, c'est que la personne cherche à gagner son ciel par ses mérites et par ses bonnes actions. Alors, c'est vraiment, si on ne fait pas la différence entre les deux, c'est très, 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 très grave. Alors, la différence entre les deux positions, ce n'est pas seulement entre celle des catholiques romains et celle des réformés. C'est la différence entre le ciel et l'enfer. Le livre de Matthew Mead, intitulé « The Almost Christian Discovered », qu'on pourrait traduire par « le presque chrétien découvert », Mead liste 26 manières qui manifestent l'authenticité de sa foi. Ça serait un livre très intéressant à lire, parce que s'il dit 26 manières pour nous de vérifier si on a la foi authentique, ça serait peut-être intéressant à le méditer, à faire attention à ce qu'il dit. Parce que sûrement qu'il se base sur les Écritures, les puritains, c'était leur force, vraiment la stricte adhésion aux Écritures. Autre chose sur lesquelles ils peuvent nous aider, avec l'autorité de la Bible. Nous savons que les Saintes Écritures, c'est en fait Dieu lui-même qui nous parle. Nous devons croire fermement les déclarations de la Bible sur elle-même, comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous savons que tout ce que Dieu dit, nous devons le croire et agir en obéissance. C'est ce que les gens de l'Ancien Testament avaient compris. Par exemple, quand on lit dans Exode 24, au verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » La confession de foi Baptiste de Londres de 1689 au chapitre 1, paragraphe 4, déclare solennellement ce propos. L'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, qui est la vérité même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Nous savons que lorsque Dieu parle, nous devons écouter. En fait, une grande partie de la grande commission consiste à enseigner aux gens de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et maintenant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'autorité qui frappait les foules dans l'enseignement de Jésus, comme on peut le voir dans Matthieu 7, versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leur scribe. Les prédicateurs doivent prêcher avec autorité. Dieu commande que cela soit fait ainsi. Par exemple, dans Tite, chapitre 2, verset 15, ça dit « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Nous affirmons tous que si Dieu nous commandait quelque chose, nous obéirions immédiatement. Cependant, il le fait à travers les sermons de ses fidèles ministres de la parole. Que faisons-nous après avoir écouté un sermon? Il est possible que nous disions « c'était intéressant, je vais y penser ». Dieu ne nous a jamais demandé de nous donner notre opinion ou de simplement penser à ce qu'il nous a dit. Il veut que nous obéissions. Le puritain Thomas Taylor a écrit « La parole de Dieu doit être délivrée d'une manière telle que la majesté et l'autorité de son auteur soient préservées. Les ambassadeurs de Christ doivent transmettre son message comme si Christ lui-même le donnait. Un ministre flatteur est un ennemi de l'autorité de Christ. Il ne doit pas substituer de douces chansons qui viennent brouiller la vérité. Ne pas transmettre l'autorité de Christ ou l'affaiblir est un très grave péché. Le ministre ne doit pas changer son message en fonction de la classe sociale ou de la richesse de ses auditeurs. Les auditeurs doivent, premièrement, prier pour leur pasteur ou enseignant pour qu'ils délivrent leur message avec autorité et assurance. Deuxièmement, ne pas confondre cette autorité avec de la colère ou de l'amertume. Troisièmement, ne pas refuser de s'assujettir à cette autorité, ni de se fâcher lorsque cette autorité vient dévoiler un péché dont nous sommes coupables. Dieu jugera ceux qui refusent la lumière offerte. Deutéronome, chapitre 30, verset 30, « Aimer Dieu, c'est obéir à sa voix. J'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, j'ai mis une seule application. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné des docteurs qui connaissent les Saintes Écritures, nous aident à les comprendre et à leur obéir. Redécouvrons les puritains et nous rapprocherons de Dieu. Que notre Dieu soit adoré éternellement. Amen.